Nous sommes le jeudi 25 mai 2023 et à l'entame de cette émission, nous avons une pieuse et respectable pensée à l'endroit des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine. Il y a 60 ans, ils s'étaient réunis à Addis Ababa en Éthiopie pour porter sur les fonts baptismaux l'Organisation de l'Unité Africaine. Ils rêvaient de l'unité de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il en est 60 ans après? Le débat est ouvert, mais nous saluons leur mémoire. Et nous vous saluons, vous aussi, les chers et fidèles auditeurs du Club de la Presse sur Canal FM ou sur les antennes des médias partenaires, Radio Lumière, Radio L'Appel, La Voix des Plateaux, Radio Centrale FM, Radio Sama FM, Radio Daoul, Radio Courtoisie. Chacun placera chaque radio dans sa ville. Et puis dans le monde entier, les radios numériques comme Ebene Radio, Radio Le Bénin ou toutes les autres applications qui nous mettent en connexion avec vous. La connexion est en fait établie par les techniciens Vitogwe Kokou, Michel Tomenga et Jero Dakucha. Au club de ce jour, nous allons partager rapidement quelques vieux constatés. Puis nous allons revenir également sur les congrès des partis politiques dont c'est la saison. Et puis quelques informations, le monde des affaires, l'économie. Et également, quelles sont les prestations que le fameux hôpital Dr Lafia, les prestations que cet hôpital nous offre. Et également les tarifs auxquels nous devrons nous attendre. L'hôpital a émis même un guide et de ce dont nous parle un journal, pour ne pas le nommer, c'est La Nouvelle Tribune. Voilà le menu du Club La Presse avec comme invité journaliste d'abord Elom Kossi Atichogbe de La Nouvelle Tribune. Bonjour.
Serge, bonjour. Bonjour Canal FM, bonjour à tous les confrères, bonjour aux invités. C'est vrai que le studio m'a manqué, je suis de retour. Bonne émission à toutes et à tous.
Ouais, ça fait un bon moment que je ne vous ai plus retrouvés, réunis ici, vous les trois et moi, également avec Oulo qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais celui que je retrouve également avec beaucoup de plaisir, c'est Michel Sarakawabalo Tchadja de Ouara les Vainqueurs. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour confrères présents et puis surtout bonjour à nos amis fidèles auditrices et auditeurs et sans oublier nos chers invités ici présents.
Oui, entre amis, notre ami la brasseuse du Tchoukoutou moderne.
Oui, la directrice de la société Nirajou.
Oui.
Elle doit en tout cas nous écouter à l'heure où nous sommes. Et je pense que c'est bien de se rappeler d'elle. Bonjour oui. À elle.
Elle continue. La directrice de Nirajou
qui fait la boisson locale.
Qui brasse du bon Tchoukoutou aussi oui. Bien pour les petits que pour les grands.
Oui.
Mais elle fait également. Comment l'appelle-t-on là?
Des frianderies.
Des frianderies.
Oui.
Nirajou, tout est naturel.
Oui.
Magloire Teko Kenvi, bonjour.
Bonjour à toi, Sass Gaou. Bonjour aux confrères Lom Michel. Bonjour aux invités. Et bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices.
Merci. Les deux invités qui sont à nos côtés, mais que je réserve encore pour le moment, vous le saurez toujours. Mais nous aurons à beaucoup parler aujourd'hui, vous avec nous. Et pour nous mettre en situation, nous partageons ensemble cette parole de sagesse qui enseigne que s'affirmer ne veut pas dire parler haut et fort, mais parler franc et vrai. Encore une fois, s'affirmer ne veut pas dire parler haut et fort, mais parler franc et vrai. Je compte sur nous pour ne pas seulement parler haut et fort, mais pour parler franc et vrai sur les sujets que nous allons aborder. Maintenant, j'en viens aux invités qui nous viennent des rangs de l'Union des Forces de Changement, l'UFC qui tient la place ces derniers temps, pour ce que vous savez. Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons M. Ete Koudama, Adolphe. Bonjour.
Bonjour, M. Sass. Et bonjour aux auditeurs de Canal FM.
Merci. Vous êtes secrétaire général par intérim à l'Union des Forces de Changement.
Oui.
Deuxième invité, c'est Aïe Sylvain Ajavon. Bonjour, M. Ajavon.
Bonjour, M. Sass. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM.
Vous êtes le conseiller du deuxième vice-président de l'UFC, c'est ça?
Exactement.
Merci. Avant de venir à votre sujet, deux vieux constatés. Hier, nous parlions de cette ruelle, de cette rue à Fidoukoui, hein, qui passe notamment devant l'école primaire publique et devant la poste. Hein, dans, à part sept ans de pluie, il y a des trous dans la pluie. C'est comme ça que des gens, dont même des fonctionnaires en route pour le boulot, ils vont tomber à pied ou à moto dans cette eau. Et puis, nous avons eu la belle surprise que hier, en fin de journée, comme par enchantement, l'eau a disparu de la rue. Hein? L'eau a disparu de la rue par enchantement, seulement qu'il reste les trous. Alors, nous prions les bonnes volontés qui ont pu faire partie l'eau de remblayer également les trous afin que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets à la prochaine pluie. Nous comptons sur cette bonne volonté. Ceux qui ont pu faire partie l'eau hier peuvent également travailler à remblayer les trous. Toujours dans ce phénomène, il y a cet article de Écho du Pays à la page 7 qui parle des inondations et remplissage des bassins et de rétention d'eau. Le gouvernement doit y remédier, mais la population doit aussi faire sa part. Hein? Voilà les deux sujets sur ce premier vieux constaté. Le deuxième vieux constaté, nous nous rappelons qu'il y a environ deux semaines, nous avons eu des averses orageuses qui ont causé des dégâts ici et là. C'est ainsi que à Agbalepedo, non loin du carrefour qui porte un œuf d'autruche, à côté de l'ambassadeur du Togo au Koweït, également pratiquement face à à la maison du député Yentoumi, la pluie avait décoiffé, avait pris un hangar qui était allé s'abattre sur un poteau galva qui est tombé. Mais le problème, c'est que le poteau porte aussi bien les fils de la CET que de Togocom. Les fils traînent par terre. Tout le quartier se trouve privé de la connexion Internet avec les fils électriques qui traînent par terre. Les enfants sont dans les quartiers, ils peuvent jouer. La pluie peut encore tomber. Magloire, c'est pourquoi nous demandons, avec beaucoup d'humilité, à la CET ou à Togocom d'aller relever ce poteau-là pour sauvegarder leur fil et préserver le quartier d'un éventuel sinistre.
Non, je crois que c'est important de le mentionner parce que je sais que ces deux structures, ces deux institutions font de leur mieux. Mais parfois, on tombe carrément des nues quand on voit par exemple que dans des quartiers, il y a des poteaux qui chutent et que des courants ou des fils électriques traînent par terre, évidemment. C'est la vie humaine qui est mise ainsi en danger. C'est une question de santé publique. Et parfois même, vous écoutez des riverains dire que ben, ça fait plusieurs jours qu'ils relancent. Prenons juste le cas de la CET. C'est courant de voir des poteaux tomber comme ça, deux jours, trois jours, quatre jours après avant qu'ils n'interviennent. Nous pensons que oui, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais je crois qu'on ne va pas quand même commencer par enregistrer des morts avant de savoir que ben, les clients existent avant que les entreprises n'existent.
Merci. Nous rappelons que ce poteau Galva, c'est non loin du carrefour œuf d'autruche. Ceux qui prennent la Balpedo, ils connaissent bien. C'est non loin de la maison de l'ambassade du Togo au Koweït et pratiquement en face de la maison du député Yentoumi. En suivant ces indications, et la CET et Togocom pourront retrouver le poteau, le relever et ainsi ils auront sauvegardé leurs installations, ils auront mis le quartier à l'abri d'un éventuel sinistre. Mais la pluie qui cause des dégâts, et Michel va nous dire que la route qui mène chez lui n'abîme pas trop les amortisseurs de ton véhicule.
Tu vous as dit ça. Mais c'est un problème général. Je pense que si je prends le quartier où j'habite, je pense que nous vivons...
Et le quartier, c'est
L'Egbacito.
L'Egbacito.
C'est un quartier qui connaît régulièrement des problèmes de pluie. qui est traversée par des ruelles qui sont à tout moment lessivées, un quartier qui vraiment connaît beaucoup de difficultés. C'est pourquoi j'ai dit ici à maintes reprises que quand on parle de mer, j'attends un jour qu'on vienne faire le bilan, peut-être un jour de la première expérience des mairies que nous avons. Je le dis souvent, mais il y a des quartiers, on se demande s'il y a des maires qui connaissent ces quartiers-là. Mais vous allez voir, à chaque fois quand il y aura élection, ces gens-là vont courir de tous côtés pour demander aux gens, pour solliciter la voix des gens, pour être là. Mais face aux problèmes, on ne les retrouve jamais. Et bon, c'est comme ça. Ce n'est pas le quartier Les Bassito seulement. Il y a plein de quartiers, parce que je circule beaucoup, je vois comment beaucoup de quartiers ont des difficultés, surtout par ces temps de pluie. Mais bon, quand cela ne tienne, les quartiers, on s'organise à notre manière, en attendant un jour ou l'autre de voir les pouvoirs publics quand même venir à notre secours.
Merci. Sans transition, la série des congrès des partis politiques. Vous vous rappelez, c'était lundi dernier, nous avons parlé du congrès avorté de l'UFC. Nous avions reçu le lundi donc le conseiller en communication du président national de l'UFC qui nous avait expliqué le pourquoi et le comment le congrès n'avait pas tenu. Mais M. Tommy Vivien, avait laissé entendre que le congrès qui n'avait pas tenu le week-end dernier pourrait être reconvoqué en cette fin de semaine. Et c'est à ce titre-là que nous avons convié autour de nous aujourd'hui M. Adolphe Etet Koudama, que je resalue encore une fois.
Salut.
Et également M. Aï Sylvain Ajavon. Bonjour, rebonjour à vous aussi.
Oui, bonjour, salut.
Eh bien, avant d'en venir en vous, lisons cet article de Flambeau des démocrates qui nous parle d'un autre parti et qui va également à son congrès. D'abord, l'éditorial de Flambeau dit « mauvais héritier ». Et l'article dit que l'article parle du cas, naturellement, notamment à Agboibo, le fin stratège qui s'en est allé, apparemment laissant derrière lui des héritiers qui n'ont rien appris de lui. Le dernier congrès en date du cas, qui a fini sous forme de pugilat, qui selon certaines personnes a abouti à une transition, mais transition contestée par certaines personnes. Et puis depuis quelques jours, on apprend le cas se prépare à aller à un congrès samedi. L'affiche est là. Le congrès devait se tenir à l'hôtel de la Mugette à Djidjolé. Et à ce sujet, le confrère Le Changement écrit ce matin que sous la pression de 33 fédérations qui ont produit une pétition, le congrès du CAR reprend ce samedi 27 mai à l'hôtel La Mugette à Djidjolé. Donc 33 fédérations sur les 47 qui ont pris une pétition et qui nous mènent tout droit à ce congrès le samedi prochain. On verra si ce congrès sera réouvert le samedi. Elom ?
Bon, c'est quand même triste parce que ce à quoi on a assisté la dernière fois lors du congrès du CAR, c'est tellement honteux. Moi, j'ai envie de le dire parce que quand vous regardez un peu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec des militants qui pratiquement tenait par le col de la chemise des confrères ou des collègues militants du même parti, c'est quand même triste. C'est triste de constater cela dans un même parti, et d'autant plus que les fédérations n'ont plus qu'à faire le jeu démocratique. S'il y a 4 candidats et que vous pensez qu'il y a un candidat qui émerge du lot, autant quand même positionner ce candidat-là. C'est vrai qu'on avait toujours dit que la succession de Maître Léovia Gboïbo sera très difficile, sera extrêmement difficile, surtout que c'est un parti qu'il avait géré lui-même de main de maître jusqu'à son décès, malheureusement. Il était parti entre-temps, il était revenu aux affaires avant de rendre l'âme. Toutes mes condoléances par la même occasion à la famille et paix à l'âme du défunt. Et c'est quand même regrettable d'assister à ce genre de scène sur la scène politique. Et ça relance le débat sur le renouvellement même de la classe politique togolaise dans son ensemble. Voilà des partis politiques qui ont des leaders qui datent de 1990, qui ont fait le jeu démocratique, qui ont quand même participé à tous les combats et qui sont toujours aux affaires en 2023. Au 21e siècle, alors qu'ils ont fait le 20e siècle de bout en bout. Et donc, on est actuellement au 21e siècle. Ils sont toujours là. Ils refusent de pouvoir organiser des congrès pour pouvoir organiser l'alternance en leur sein. C'est quand même triste et difficile. Et nul n'est indispensable, il faut le dire. Si vous avez fait longtemps un parti, que vous êtes leader, un leader se reconnaît justement en sa capacité à pouvoir transmettre le flambeau à la génération qui suit.
Merci. Nous apprenons que le parti DSA annonce son congrès le samedi. La CPP également annonce son congrès en fin de semaine. Mais pour ce qui est des gens qui sont autour de nous, notamment l'UFC, Monsieur Koudama, je rappelais tantôt que l'information avait circulé que l'UFC a tenu son congrès le samedi. Ça n'a pas eu lieu pour des raisons que nous savons un peu. Et puis, quand je recevais Tommy, le conseiller en communication du président national, lundi, il avait dit que le congrès de l'UFC sera reconvoqué cette fin de semaine. Nous sommes jeudi. Alors, dites-nous, en votre qualité de secrétaire général par intérim, est-ce que l'UFC va tenir son congrès en cette fin de semaine?
En fait, je crois que M. Tommy a beaucoup d'imagination, puisqu'il annonce même un congrès qui n'est pas convoqué. Je ne sais pas. Bon, en fait, bon, le président national avait convoqué un congrès sur le 20 mai.
Sur le samedi 20 mai.
Sur le samedi 20 mai.
Oui.
Ça, tout le monde a reconnu qu'il a signé une lettre.
L'avis de convocation.
L'avis de convocation.
Oui.
Maintenant, c'est le ministre Boukpessi qui nous informe. Pas le président, hein. Le ministre qui nous informe qu'il a une autre lettre qui demande l'arrêt de ce congrès.
L'annulation de ce congrès.
Ce congrès. Mm-hmm. Ce qui est vraiment bizarre. Et le samedi, on vient, on nous place des soldats, etc. Bon, ça, on ne va pas développer.
Bah, nous ne voulons pas trop regarder dans le rétroviseur. Allons de l'avant, encore une fois.
Le président.
Est-ce que. Alors, dites-nous, monsieur.
C'est de là que je viens.
Oui, monsieur Koudama. Oui. Est-ce qu'il y a un acte de convocation signé par le président national qui convoque ce congrès pour cette fin de semaine, pendant que nous sommes...
Jusqu'à l'heure où je te parle, où je parle aux auditeurs,
oui.
Je n'ai encore vu l'avis de convocation. C'est comme la fois passée, le vendredi à 15h30, le président nous a appelé pour nous dire aller de l'avant.
National.
Le président national
oui.
Nous a appelé pour nous dire aller de l'avant. Et à 16h, le ministre Boukessi nous appelle. Donc, tout peut se passer. Nous sommes au Togo. Mais, juste à l'heure où je vous parle, actuellement, il n'y a aucun avis de convocation.
Merci. Nous sommes le jeudi 25 mai. Il sont 11h29. Et le secrétaire général, par intérim, nous dit qu'il n'y a pas encore d'acte formel de convocation du Congrès. Alors, je crois savoir qu'il y a un délai minimum entre la correspondance qu'un parti doit adresser au ministère avant la tenue des rencontres. Alors, quant à vous, monsieur Ajavon, vous êtes conseiller du deuxième vice-président qui se trouve être monsieur Ohin. Alors, nous apprenons qu'il y a deux camps au sein de l'UFC. L'un des camps dirigé par monsieur Ohin, le second camp dirigé par monsieur Oumao, et que le président Olympio aurait demandé aux deux camps de s'entendre pour préparer de façon consensuelle le congrès. Alors, dites-nous, en votre statut de conseiller de M. Ohin, est-ce que les deux camps de l'UFC se sont rencontrés pour préparer le prochain congrès?
Ils se sont rencontrés plusieurs fois pour préparer le congrès du 20.
Oui. Donc, pour préparer le congrès du 20.
Du 20.
Oui.
Et la date a été acceptée des deux. Et les deux ont appelé le président national qui leur a dit, bon, si vous êtes d'accord, je vous soutiens à 100%. Et il y a eu des réunions préparatoires et c'est la réunion du mardi.
De quel mardi?
Du mardi qui précède le 20. C'était le...
Vous pouvez voir la date. Le mardi qui précède le 20 mai. Donc, c'était le mardi 16.
Le mardi 16.
Oui.
Il y a eu une réunion encore.
Entre
les deux camps.
Oui.
Au siège. Et il y avait... C'était quatre personnes. C'est-à-dire chacun a amené deux personnes. Et c'est là où celui qui est venu avec, c'était Locadi, Monsieur Locadi, a dit que lui, il n'était pas au courant qu'il y a un congrès qui était pour le 20. Alors là, les gens sont tombés vraiment...
Monsieur Locadier est de quelqu'un, si vous permettez.
Monsieur Locadier est avec... Est
dans le camp de...
Et de Maître Omao.
Omao et voilà. Ali Puissena.
Voilà, c'est
non,
ça.
Ok.
C'est ça. Donc, il dit qu'il lui dit pas. Il dit, mais non, mais tout le monde a dit, c'est pas vrai. Vous êtes au courant que c'est le vin. Parce que vous, Maître Omao, vous avez appelé le président national et pour votre accord. Et c'est là où, quand l'accord a été donné entre les deux, c'est là où un émissaire est parti pour que la lettre soit signée.
Par M. Olympio.
Par M. Olympio. Et c'est ce qu'il a fait.
Bon, donc vous dites que les deux camps s'étaient rencontrés pour préparer le congrès convoqué sur le vin. Alors que des déclarations de M. Ali Puissena et de M. Omao, on a plutôt l'impression que M. Ohin avait convoqué ce congrès-là, avait préparé le congrès de façon unilatérale.
Le président national n'aurait jamais signé la convocation pour le congrès si les deux n'étaient pas d'accord. Ça, on peut se le dire. Et ça, c'est clair. C'est qu'il a eu l'accord. Le président national a été clair dessus pendant de longues semaines. Nous irons à un congrès unitaire. Donc, les deux camps devaient se voir. Ça a été difficile, mais ils se sont vus. Ils sont partis d'abord chez le président national. Et ils leur ont dit, bon, allez vous arranger et appelez-moi quand vous êtes d'accord sur une date. C'est ce
donc
qu'ils ont fait.
Vous répétez que les deux camps s'étaient retrouvés pour préparer le congrès convoqué le 20.
Exactement.
Maintenant, comme le 20 n'a pas pu avoir lieu, depuis le 20, est-ce que ces deux camps se sont retrouvés encore une fois?
Pas encore, à ce que je sache.
Donc, les deux camps ne se sont pas retrouvés depuis le samedi 20 pour préparer le prochain congrès.
Le prochain congrès.
Donc, M. Koudama, qu'est-ce qu'il faut en comprendre?
Enfin, je crois que pour le moment, on n'a rien à dire. Puisque le congrès n'est pas convoqué, ce qui veut dire que c'est remis à plus tard. C'est tout. Ou bien, si comme d'habitude, on nous sort des lettres par magie, on peut sortir une convocation, peut-être le vendredi ou le samedi matin. Je ne sais rien. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien de ce genre.
Ok. D'après ce que nous disent M. Koudama, qui est secrétaire général par intérim, dans le bureau de l'UFC, et M. Ajavon, qui est conseiller du deuxième vice-président de l'UFC, aucune convocation formelle n'est faite pour la convocation du congrès en cette fin de semaine. Michel Tchadja.
Non, c'est quand j'ai écouté les deux messieurs, je ne comprends pas grand-chose. Parce que jusque-là, quand les deux ont pris la parole, ils sont accordés sur le fait que, en réalité, les deux camps qui s'observent depuis un certain temps en chef de faïence se sont entendus pour aller au congrès du 20. Et ça a été acté par le président national. Mais un peu, disons, à la veille donc de ce congrès, on note qu'il y a un camp qui n'a pas été d'accord, qui a procédé autrement, en tout cas qui l'a fait savoir qu'ils ne sont pas au courant d'un quelconque congrès. C'est pour dire que l'UFC, encore une fois, est traversé par une situation qui met mal à l'aise, au-delà de leur parti, la population. Parce que j'ai l'impression que 2010, depuis que ce parti est allé, pour travailler avec le
depuis parti. Depuis la signature de l'accord.
C'est le début vraiment de la descente aux enfers de ce parti. Parce que avant 2010, quoi qu'on dise, il y avait une certaine cohésion dans ce parti-là. Mais depuis 2010, ce parti UFC qui a donné naissance à beaucoup de partis, qui vont donner bientôt naissance à un peu d'autres partis, ce parti-là commence à vraiment, vous voyez sur la scène politique, les scandales, parfois des déclarations à l'emporte-pièce, des fois même, et on a l'impression que c'est dans une cour de récréation de l'école primaire, où on chamaille. Et il y a des chamaillements, il y a des des trucs pas possibles à voir et à entendre. Et donc, ils sont assez responsables. Je pense que les auditeurs qui sont en train de nous suivre actuellement n'ont rien compris. Hein. En tout cas, qu'ils m'excusent de parler ainsi, parce que on aurait cru que la date du 20 septembre, du 20 mai là, qui devait quand même avoir, qui devait en tout cas réunir toutes les filles et tous les fils de ce parti autour d'un congrès, cette date là, si à la dernière minute ils nous font, en tout cas ils nous disent qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord jusqu'à ce que la police s'invite. Donc dans cette situation, je trouve que vraiment ils ont beaucoup à faire pour pouvoir ramener la cohésion, parce que
dans leur rang
parce que ils commencent d'abord. Oui, parce que quand vous entendez que ce soit le camp de Win, que ce soit le camp d'Aloupi, mais on a l'impression qu'ils se moquent des Togolais, quoi. Ça dit que c'est comme ce qu'ils disent là. Est-ce que ils pensent à ce que les gens en tout cas les gens reçoivent comme choc quand on les écoute? C'est vraiment sur,
c'est j'aime bien ça là. Est-ce que les deux camps se rendent compte
oui.
de ce que les gens reçoivent comme
oui.
choc
oui.
Hein, avec vos chamailleries et vos incompréhensions? Magloire, voilà, je rappelle hein, que quand le congrès n'a pas pu avoir lieu le samedi, à l'émission du lundi, j'ai reçu le conseil en communication hein, du président Olympio, notre ami et confrère Tommy, qui avait donné ses raisons également. L'une de ses raisons, c'est que le congrès du 20 était préparé de façon unilatérale. Or, nous venons d'apprendre de la bouche de M. Ajavon que les deux camps avaient travaillé pour aller à ce congrès-là. Ce congrès étant avorté, M. Tommy avait dit que l'UFC devrait se retrouver en fin de semaine pour un nouveau congrès. Et tu as entendu tout comme moi ce que nos invités ont dit. Ça, c'est pour l'UFC. Mais maintenant, pour le cas hein, dont la convocation au congrès circule pour le samedi, et comme l'écrit le changement, c'est 33 fédérations sur 47 qui ont signé une pétition qui convoque le congrès. Alors là aussi, on verra si seulement sur ce congrès du cas va être tenu par les 33 fédérations pétitionnaires, ou bien si ça va être étendu à toutes les fédérations du cas.
Oui, ça c'est... J'ai écouté religieusement nos invités et ça fait, je crois, quelques semaines déjà que nous suivons ce feuilleton que j'estime assez malheureux qui se passe au niveau de l'UFC. Au même moment, j'avoue, je vois mon âge, je vois nos invités devant moi, je vois le président national de l'UFC, je vois M. Eliott Ohin, je vois M. Romao, je suis pratiquement... Sinon, leur enfant, leur petit-fils.
Non, leur petit-fils.
Voilà, leur petit-fils. Et quand je vois mes parents...
Tes grands-parents.
Mes grands-parents se chamailler pour peut-être rien du tout, moi, ça me peine. J'ai entendu que ce soit vous, que ce soit nos invités, que ce soit Michel. C'est revenu, c'est devenu redondant. Quel camp. Mais je dis, nous en sommes où? Dans un parti politique, on peut certes se chamailler, mais pour le bien... du parti, pour l'intérêt du parti. Mais quand on arrive à se demander mais tu es de quel camp dans un même parti, je dis je ne comprends pas. C'est pour ça justement que nous nous sommes amenés à titrer notre éditorial de mauvais héritier, tout simplement. Parce que cela amène justement à se poser une nouvelle question. Est-ce que nous adhérons justement au parti politique par rapport aux idéaux, ou alors nous adhérons au parti politique parce que le président national est un parent, parce que le président national est un ami, parce que. Et je crois qu'on devrait reconstruire tout ça à la base. Quand nous prenons le cas de l'UFC qui est sur la table aujourd'hui, je rappelle que nous ne sommes pas au premier feuilleton ou au premier épisode de ce feuilleton. Vous vous rappelez que lorsqu'il s'était agi de convoquer les partis politiques pour les travaux de la CENAP, il nous a
la
été
consultation nationale des acteurs
exactement,
politiques.
Il nous a porté que l'UFC était arrivé avec deux délégations. Et à la fin, on a su qui était resté pour participer aux travaux. L'autre épisode, c'est que lorsqu'il s'était agi d'envoyer, n'est-ce pas, des noms pour composer la CENI.
Et ces démembrements.
On a vu ce qui s'était passé.
Autrement dit, deux listes.
Deux listes et une a été retenue.
Oui.
Lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, d'organiser le congrès de l'UFC, on nous dit que les deux camps se sont rencontrés pour travailler de façon unie, enfin, de façon collégiale, ce congrès, mais qui finalement se retrouve être un congrès inconnu de tous les deux côtés. Alors que le président national est là. Et vous avez dit tout à l'heure que les gens ne comprennent rien, mais je dis, les gens comprennent quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour savoir que du haut de son âge, le président national, avec tout le respect que je lui dois, vous êtes là et vos enfants se chamaillent comme ça et vous ne dites rien. Vous pensez que ça peut être facile comme ça qu'un ministre, comme ministre Boukpessi, ministre d'État, puisse dire ouvertement qu'il tient en main, n'est-ce pas, une correspondance du président national et donc sur la base de cette correspondance, il interdit un congrès. Alors que l'autre camp qui est avec nous dit que le président national est bien au courant du congrès qui devrait s'organiser.
Et a signé même.
Qui a signé, oui. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Soit le président national, je le dis encore une fois avec tout le respect que je lui dois, ne vous dit pas toute la vérité. Parce que quand je vois M. Romao et M. Eliott Ohin, qui sont, on va dire, les deux chefs de file des deux camps, on sait qui est au pouvoir, c'est-à-dire que qui participe à l'action gouvernementale aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, même si le président national ne l'a pas dit, en réalité, il a pris faire cause pour ceux-là qui participent à l'action gouvernementale.
Voilà, peut-être que le président national ne dit pas tout à ses amis, ou peut-être aussi qu'on dit des choses sur le compte du président national.
Et c'est à cela que moi je dis, il doit pouvoir sortir de son silence. Parce que son silence, il est bruissant. Et ça donne lieu à des interprétations sur interprétations. La meilleure manière, selon moi, c'est qu'il puisse faire une sortie officielle pour situer tout le monde.
Merci. Monsieur Koudama.
En fait, moi, je récuse souvent le terme de camp. Parce que pour moi, à l'UFC, il n'y a pas de camp.
Si.
Il y a des tendances, il y a des opinions diverses. Mais aller jusqu'à dire qu'il y a des camps, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce qu'il y a les textes qui régissent le parti. Si vous suivez les textes, vous êtes dans la légalité.
Mais monsieur,
pas de mais lorsque vous
c'est
ne suivez
pas... C'est monsieur Olympio même qui parle problème. Du camp et qui demande aux deux
camps de se
retrouver pour préparer le congrès.
Il demande aux deux leaders.
Deux leaders de quoi?
Moi, je ne veux pas dire camp.
Deux leaders de quoi?
Quand vous dites camp, ça veut dire qu'il y a des clauses tâches entre les deux. Si les deux arrivent à se communiquer, c'est des opinions diverses. Je ne veux pas parler de camp.
Donc, pour moi... S'il vous plaît... S'il vous plaît.
Je vais continuer.
Oui,
laisse-moi continuer. Parce que pour moi, j'appelle ceux qui s'en prennent à nos textes, moi j'appelle ça une réunion. Pour moi, c'est pas chose. Parce que quand vous avez les textes, on dit quand le président n'est pas là, il est remplacé par celui-ci. C'est très simple. Mais lorsque vous dites vous ne voulez pas voir celui-là, parce que vous êtes ici aujourd'hui, vous avez la compétence avec le pouvoir par là, vous avez ceci. Mais moi, je dis non. Respectons les textes d'abord, et s'il y a un problème, on peut le résoudre après. C'est ça.
S'il vous plaît.
Oui, Michel.
Est-ce que le... Comment...
Monsieur Koudama,
est-ce que vous allez nous dire que c'est dans le respect des textes qu'une liste envoyée à la CENI a été rejetée au profit...
Moi, je peux vous dire, par exemple,
oui.
Est-ce
que vous pouvez nous dire, puisque vous dites que le pied est là, il y a les tests qui régissent donc le parti. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui, puisqu'il y a des milliers de Togolais qui vous écoutent, c'est au nom du respect de ces tests-là qu'une liste a été rejetée à la CENI au profit d'une autre.
Quelle est la liste qui a été rejetée? La liste envoyée par le représentant légal du parti.
Suivant les textes,
le président de l'Assemblée nationale avait fait un appel à candidature
adressé au parti
au parti politique en général. Et cet appel à candidature est publié sur nos plateformes et partout pour que tout le monde puisse poser sa candidature.
Oui.
On a fait une liste, on a envoyé à la présidente de l'Assemblée et voilà, de nos sortes du hasard, et descendent sur la table et on les fait passer.
Non, ce n'est pas du hasard. Deux noms soumis par vos camarades de parti.
De parti, bien voilà. Entendu.
Oui, c'est ça. Justement, mais ce n'est pas soumis par le représentant légal, c'est ça.
Non. Mais qu'est-ce que le président a fait? Moi, je rejoins ma gloire. En réalité, vous comprenez, c'est-à-dire que M. Gilchrist Olympios, ce n'est pas un enfant. C'est quelqu'un pour qui on a énormément de respect pour toute la lutte politique qu'il a menée depuis les années 90. Et donc, on ne peut pas être en 2023. Je dis, il y a des leaders de partis qui ont fait le 20e siècle, qui font le 21e siècle. Mais si vous êtes fatigué, transmettez le flambeau. C'est-à-dire, on ne peut pas, avec toute la posture et la carrure de M. Olympio, attention, prêter à ce jeu d'enfant. Je l'appelle jeu d'enfant parce que, écoutez, avec tout le respect que moi j'ai pour M. Gilchrist Olympio, pour toute la lutte qu'il a menée, il a même failli être assassiné dans cette affaire en étant leader de l'opposition. Mais à ce stade au 21e siècle, en 2023, ce ne sont pas, excusez-moi, des gamins qui vont le manipuler. Je suis désolé. Comment est-ce que vous avez des tests? Et toi, tu es leader du parti. Les tests sont là. Un représentant légal dit qu'il a envoyé une liste légale pour qu'on puisse désigner les membres du parti devant représenter cette formation à la CENI. Et patatras, deux autres personnes du même parti se lèvent, font rejeter la liste du représentant légal et déposent une autre liste. Et le président national se tait. Soit on a un leader, soit on n'en a pas. Je suis désolé.
Et on a l'impression actuellement que l'UFC n'est pas dirigé seulement par Gilchrist Olympio. Il est dirigé par le Gilchrist Olympio et le gouvernement. Puisqu'il arrive à des moments où c'est le gouvernement qui siffle la fin de la récréation et qui prend position. Et ça passe. Non, mais excusez-moi. C'est comme ça que je vois. Hein.
Oui.
Parce que la preuve, vous avez voulu tenir le congrès. Et à la dernière minute, c'est le ministre d'État, Bayadogui, dit bon, dispersez-vous, il n'y a rien. Donc, pour dire que votre parti, vous ne maîtrisez pas actuellement le parti pour lequel vous travaillez. Ça veut dire que vous dites que vous pouvez aujourd'hui être convoqué pour un congrès demain. Ce soir ou demain matin, une lettre peut arriver, tomber, dire que partez. Donc, quand c'est comme ça, là, vous n'avez pas vraiment votre parti en main. Je suis désolé,
de parler comme ça. Dans une blague, je disais à M. Ayi que Boukessi est devenu le deuxième président de l'UFC.
Ça peut se comprendre par les actes
qui sont posés. L'information importante, c'est que pendant qu'ils sont 11h38, en cette journée du 25 mai, il n'y a pas encore de convocation formelle pour un congrès du parti UFC en fin de semaine, à se fier à ce que nous disent M. Koudama et M. Ajavon dans ce studio. Nous continuons par d'autres sujets. Le monde des affaires et aujourd'hui, des journaux reviennent sur l'inauguration de cette gigantesque raffinerie construite par l'homme d'affaires Aliko Dangote. Au nombre des témoins, Fort Niasingbe qui était là, ce que nous rappelle le dialogue, Fort Niasingbe a assisté à la mise en service de la raffinerie Dangote à Lagos. Flambeau aussi en parle, qui écrit « Réussite dans les affaires, la belle leçon du Nigeria de Dangote. Magloire, vous parlez de la prospérité, de la réussite de l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, qui est un exemple vivant que la réussite est bien possible en Afrique. »
Évidemment, la réussite est bien possible en Afrique si on travaille à mettre en place les conditions pour arriver là. Vous avez vu qu'en début de semaine, Aliko Dangote, que tout le monde connaît, a inauguré donc sa raffinerie. Et autour de lui, il y avait plusieurs chefs d'État de la sous-région, plusieurs sommités étaient là, plusieurs personnalités. Et ça faisait la fierté du Nigeria. Alors, on s'est posé une question. Si aujourd'hui, le Nigeria a pu avoir, n'est-ce pas, un homme d'affaires aussi prospère que Dangote et que tout le continent s'en réjouisse, mais pourquoi pas ailleurs? Parce que, quand vous voyez ce qui se passe généralement dans nos pays, c'est que lorsque vous êtes un homme d'affaires, soit vous vous cachez pour faire votre affaire, parce qu'à un niveau donné, on peut vous considérer avoir raison comme un adversaire politique. Mm-hmm. Et là, votre vie peut chambouler à tout moment. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Vous avez vu le cas de Dangote. Fièrement, le Nigeria l'exhibe. Et lui-même, il est content qu'on l'appelle milliardaire. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de la nouvelle raffinerie, le gouvernement avait contribué en partie à la construction. Et en retour, le gouvernement aussi a sa part dedans, plus de 20%. Ça voudra dire que si on arrive à bien ficeler cette manière de concevoir les affaires dans nos États, je crois que personne n'aurait plus peur de s'avouer publiquement milliardaire. Vous voyez, quand je prends, c'est, parfois on dit, il faut faire attention quand vous dites des choses, mais au Togo, on a des gens. On a des hommes d'affaires au Togo, on ne va pas me dire milliard, peut-être c'est beaucoup pour vous, ça c'est moi. Mais milliard, c'est des feuilles pour des gens. Alors, mais si ces gens-là n'arrivent pas à le dire parce qu'on sait qu'il y a des présidents fâcheux. Je prends juste un exemple. Mm-hmm. Prenez le cas de M. Harry Octavianus Olympio. Je crois que vous devez le connaître. Il est un acteur politique, mais c'est un opérateur économique. Actuellement, au Gabon, il fait la fierté, n'est-ce pas? Je dirais de la société gabonaise, parce que c'est un monsieur qui avait sa structure, construit des villes nouvelles. C'est-à-dire, on construit toute une ville, on déplace des villes qu'on considère assez vieilles, et on les rase après. Et ça, vous allez sur Internet, vous trouverez des traces.
Et c'est Harry Olympio qui fait ça.
Harry Olympio, le Togolais
qui fait
ça. Au Gabon. Alors que au Togo, chez nous ici, parce que peut-être je sais qu'il y a un moment donné, le monsieur avait eu des petits problèmes politiques.
Non, il avait dû fuir. Hein.
Voilà, il avait dû fuir. Oui. Mais quand on sait qu'il y a un Togolais qui fait la fierté d'autres nations comme ça, pour des raisons politiques, on le laisse comme ça. Alors que nous, le Togo est aujourd'hui, vous prenez la plateforme industrielle d'Aditi Kopé. Un Togolais aussi peut monter ce projet. Il y a d'autres exemples. Et nous, merci, ce que nous voulons dire par notre article, c'est qu'il faut encourager nos hommes d'affaires à travailler facilement.
Merci, parce ça, que c'est le pays aussi qui nous rappelle ce que écrivait Liberté il y a quelques jours, que le Togo a aussi besoin d'avoir des Aliko Dangote. Et j'aime quand vous dites que Dangote, il est fier de dire qu'il est milliardaire. Et les présidents passent au Nigeria, mais Aliko Dangote, il est toujours là. Il fait ses affaires, on ne lui met pas les bâtons dans les roues et tout le monde en est gagnant. C'est une bonne chose, vivement que ça arrive chez nous aussi. Maintenant, pour continuer, lui, il n'est pas Aliko Dangote, mais il préside aux destinées de l'Office togolais des recettes, l'OTR, depuis des années. Et depuis quelque temps, nous apprenons qu'il est candidat à l'Organisation mondiale des femmes. Lui, c'est Philippe Kokou Tchodier, qui s'exprime dans la colonne de Flambeau, hein, Tchodier, qui présente sa vision pour l'OMD. L'élection, c'est en juin, dans quelques semaines. Vivement que, comme il est togolais, que la fierté nationale n'est pas un vain mot, hein, que nos bonnes chances l'accompagnent. Lui aussi, c'est où ce fut Saubertin Agba, avec la réputation qu'on lui connaît, mais il a terminé son parcours, il est mort subitement et de façon suspecte, comme l'écrit le journal Intelligent en Afrique du Sud. Voilà, Michel Tadja, Agba Saubertin, Philippe Kokou Tchodier, et puis Aliko Dangote, ces hommes à la fortune diverse.
Ah oui, si je commence par Philippe Kokou Tchodier qui préside actuellement, en tout cas qui dirige actuellement l'Office togolais des recettes, je pense qu'il est souhaitable, hein, que en tant que togolais nous prions pour lui parce que il est candidat donc au poste de
général
de l'Organisation mondiale des douanes. Il faut qu'on prie pour lui parce que, comme vous le savez, il n'est pas le seul candidat et les camps, en tout cas, se dessinent déjà et la bataille sera rude. Mais nous allons prier pour que la victoire revienne à notre compatriote parce que, pour ceux qui le connaissent, il a des qualités irréprochables et que aujourd'hui. Sur le plan politique, il a, selon ce que nous avons comme information, il a de bons soutiens. Maintenant, lui-même, il a un bagage quand même irréprochable. Maintenant, il revient seulement à nous de prier pour que, au soir du 6 juin, si je ne me trompe pas, que la victoire revienne à Philippe Kokou Tchodier et surtout au Togo. Voilà.
Merci. Quand nous souhaitons que nos bons voeux de bonne chance l'accompagnent, c'est pas seulement qu'il est togolais,
c'est parce qu'il a des valeurs avérées. Il a fait un parcours, hein. Il a fait la Banque africaine de développement, il a fait les Nations unies. Hein. Maintenant, depuis quelques années, il est à la tête de l'OTR. Et surtout, si vous lisez le journal Flambeau des démocrates aux pages 4 et 5, vous lirez sa vision telle que lui-même s'exprime. Les qualités qu'il a.
Maintenant, par rapport à Saubertin Agba,
oui.
C'est avec regret que
nous regrettons. Regret trop faible, avec oui. Vive douleur.
Douleur, oui. Que nous. Parce que à 54 ans, je pense que Saubertin Agba avait beaucoup encore à donner au Togo. Et ce qui me fait mal. Il est mort hors de chez lui, hors du Togo, pour des raisons bon, que beaucoup de Togolais ne comprennent pas jusqu'à ce jour. Mais bon, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Mais disons que sa disparition fait tellement mal, parce que quand je me rappelle quand il avait dirigé encore la société, je pense... une société de gardiennage qui prospérait, hein, je me rappelle, il y a encore des gens qui travaillent là-bas, qui sont actuellement au chômage jusqu'à ce jour, qui sont en train de se chercher, ils ne se retrouvent pas. Ça veut dire que quelque part, on parlait de Dangote ici. Il y a des gens, quand Dangote a commencé, personne ne savait comment il a commencé. Et aujourd'hui, on le voit, il sait et on crie.
Et lui-même, Dangote a dit qu'au début, il vendait des sachets de bonbons.
Bonbons.
À ses débuts.
Voilà. Et il a dit, bon, on n'était pas là pour voir. Mais il faut.
Sacré Michel.
Oui. Mais j'aurais voulu aussi que ce soit des Togolais aussi qui commencent comme ça et puis qui se hissent.
Et qui prospèrent.
Qui prospèrent comme Dangote. Donc, avoir Bertin, je pense que il était. Sur une bonne voie aussi, mais malheureusement, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Et quand je vois aussi le directeur de Seco BTP, Amouzou, monsieur Amouzou, quand je vois comment, à un moment donné, Seco BTP était hissé, était allé vraiment en crescendo et subitement, bon. Bon,
il est tombé avec des milliers de chômeurs.
Bon, quand je vois tout ça là et quand on nous appelle à célébrer les Dangote, les Alibaba, tout ça là, mais parfois on se demande mais est-ce que les gens sont sincères? Parce que mais j'ai l'impression que quand on est Togolais, c'est comme quelque part on ne reconnaît pas la valeur des gens et ce qu'ils ont envie de faire pour leur pays. Ils sont stoppés net. Et bon, maintenant on nous appelle à célébrer les autres hors du pays. Mais moi, ça me donne à réfléchir. Je ne comprends pas.
Merci. Nous avons quand même un motif, pas de satisfaction, mais d'espoir. C'est l'hôpital Docteur Lafier. Je reconnais que c'est un hôpital qui a fait chavirer beaucoup de polémiques. Mais nous prenons acte que maintenant l'hôpital est construit, inauguré par le chef de l'État il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle tribune qui nous en parle, notamment le guide du patient. Et l'homme, tu écris que l'hôpital Dr Lafia offre des soins de qualité de niveau 4 hein, pour les malades. C'est à la pointe des nouvelles technologies médicales. L'hôpital a une capacité de 160 lits et place 22 salles de consultation. Plus de 100 médecins spécialistes, 20 spécialités chirurgicales et médicales, etc. Mais aussi et surtout, il y a un guide du patient qui est disponible. On pourra consulter si on a des problèmes et qu'on doit s'y rendre.
Oui, je crois que l'hôpital Dr Lafier, à ses débuts, actuellement, est en train de quand même convaincre hein, beaucoup de Togolais de la nécessité de pouvoir... faire recours à cet hôpital de référence pour des soins. Et beaucoup se posaient la question de savoir, depuis son inauguration, à quelle sauce ils seront mangés. Je ne sais pas si vous allez le dire, c'est-à-dire les frais de consultation, de visite, parce qu'on a inauguré de jolis bâtiments, on a quand même pas mal de spécialités, on a quand même des innovations en matière médicale, il y a quand même une technologie ou des technologies très avancées dans le domaine médical au niveau de l'hôpital Docteur Lafier. Mais les Togolais se posaient la question de savoir, derrière ce bâtiment, quel sera le coût d'une consultation médicale. Et donc, depuis l'inauguration, nous avons aussi posé la question à plusieurs sources et nous sommes tombés sur le guide du patient dont nous publions quelques pages ce matin, parce que ce guide du patient fait justement 16 pages. Nous n'avons pas suffisamment de pages dans le journal pour pouvoir publier l'intégralité de ce guide du patient, mais nous avons choisi quelques pages pour permettre justement aux auditeurs et à toutes les auditrices de pouvoir savoir exactement combien coûte une consultation médicale et combien coûte une générale, je veux dire, combien coûte une consultation médicale spécialisée à l'hôpital Dr Lafier, les analyses médicales, le coût d'une chirurgie, l'ophtalmologie, la dentition et tout ce qui concerne les soins dentaires, et aussi ceux qui voulaient quand même faire des analyses d'imagerie médicale, c'est-à-dire la radio, ils peuvent aussi faire recours à cet hôpital parce que les coûts sont quand même accessibles. Et donc c'est l'occasion de signaler justement que les coûts de cet hôpital sont alignés sur la convention qui lie l'Ordre national des médecins au comité des assureurs du Togo. Donc il y a une convention nationale qui lie l'Ordre national des médecins et le comité des assureurs qui fixe les coûts, c'est-à-dire les minima en ce qui concerne la consultation médicale générale et la consultation médicale spécialisée. Et donc vous avez ici dans notre parution les jours de consultation à l'hôpital Dr Lafier, les jours de visite ainsi que les jours de consultation spéciale que vous pouvez lire à la page 3 de notre journal.
Merci à toi et nous allons continuer par cette information. Hier, le gouvernement s'est réuni au Conseil des ministres et entre autres sujets, le gouvernement a débattu de l'inflation hein, de 2022 à 2023. Et cela nous amène à ces articles. Quand le confrère L'Intelligent, parlant de consommation, écrit que le taux d'inflation en avril 2023 est à 7,1%. Et nous savons ce que l'inflation, avec ces gros chiffres-là, ce que cela cause dans nos poches. Autre sujet, maintenant, c'est la CET. Et là, L'Intelligent écrit le choc. Les frais sur le paiement des factures d'électricité partie money. L'article dit que la surprise a été de taille pour les populations togolaises lorsque la compagnie de téléphonie mobile Togocom a annoncé l'introduction de frais en lien avec le paiement des factures de la CET via T-Money, la plateforme de paiement électronique de Telecom. Pour dire en français facile, que jusqu'à récemment, nous payons nos factures CET gratis. Maintenant, quand vous voulez payer vos factures CET par T-Money, vous devez également vous acquitter d'autres frais. Et c'est ça. Et c'est pas fini. Et là, maintenant, c'est le confrère Le Tonnerre qui nous parle aussi de Togocom. Togocom et l'augmentation sauvage des frais de T-Money. La population indignée, la CEP interpellée. Pour Le Tonnerre, c'est ni plus ni moins qu'un manque de considération envers les consommateurs. Magloire, c'est ainsi que la CET Togocom, peut-être sans le savoir ou sans le vouloir, joue au jeu de l'inflation qui nous paupérise davantage.
Évidemment, et je crois que s'il faut taper sur le doigt de quelqu'un dans cette histoire, c'est la CET. C'est la CET. Vous savez que Togocom, c'est un prestataire de services. Et hier, Togocom et CET étaient dans une sorte de partenariat où on payait les factures. Et donc, c'est les services normalement de la CET. Maintenant, à un moment donné, la CET se désengage. Togocom fera quoi? C'est un prestataire de services. On le dit comme cela. Ça voudra dire que maintenant, c'est Togocom qui prend le devant pour vendre le service de la CET. Et donc, naturellement, ça devrait être facturé. C'est pour ça que je dis...
Facturé sur le client.
Évidemment. Et pourquoi à un moment donné, j'ai l'impression qu'on n'aime pas les bonnes choses au Togo. C'est-à-dire que depuis un moment, on nous a habitués. On parle de même au niveau du gouvernement, la politique du numérique. C'est ça qui est en vogue aujourd'hui. Et donc, les Togolais sont habitués à payer leurs factures via T-Money. Maintenant, du jour au lendemain, pour des raisons que j'ignore personnellement, la société dit stop, je veux plus. Ça voudra dire que à partir du moment où il y a du gain là-bas pour un service comme Togocom qui fait de la prestation de services, eux, ils continueront le job, mais à un coût qui peut-être leur permettra de faire de la rentabilité. Ouais. Nous sommes sur un terrain
commercial,
et donc ça se comprend. S'il a tapé sur le doigt de quelqu'un, c'est la société qui a bluffé tous les Togolais. Et ils doivent expliquer aux Togolais.
Mais ce fait que Togocom aussi vient d'augmenter les frais de T-Money. En général.
Bon, ça aussi, c'est un débat. On reviendra
sur ça. Là aussi, il faut taper sur les doigts de quelqu'un.
Exactement. Non, je ne les dédouane pas. Mais vu qu'on parlait justement de ce premier sujet, oui, je crois que c'est ça. Maintenant, pour Togocom aussi, je crois qu'il ne doit pas oublier que Arcep est derrière. Donc, s'ils le font, je crois qu'ils se mettent dans la gueule de Arcep, qui ne doit pas non plus rester muette dans cette histoire. Je veux évidemment voir Arcep sortir sur ce cas très prochainement.
Bon, mais vous savez, ce que Magloire dit est pertinent dans la mesure où aujourd'hui beaucoup de personnes font recours au service T-Money pour acheter du cash power pour leur compteur. Et aujourd'hui, on se rend compte que les coûts ont augmenté, mais il n'y a qu'un seul opérateur qui a communiqué, c'est Togocom, et qui a suffisamment communiqué d'ailleurs par rapport à l'augmentation de ses tarifs. Maintenant, la CET, qui est bénéficiaire de ce service-là, parce que c'est premier bénéficiaire. C'est son premier produit, elle n'en dit absolument rien. C'est incroyable. C'est-à-dire, à l'heure où on nous dit qu'on veut atteindre l'accès à l'électricité d'ici 2030, à l'heure où on digitalise les services, on ne peut pas mettre les consommateurs dans cette situation. Mais là, c'était une direction de communication bien structurée avec plein de compétences. Maintenant, on est là, on croise les doigts, et il y a un truc comme ça qui se produit, et la CET est incapable de donner même un début d'explication à ça. Vous comprenez ça? Vous savez, Move, par exemple, quand vous rechargez votre compteur Cashpower avec en achetant du crédit Cashpower sur Flouze, on vous prélève en même temps les frais. Tout le monde le sait. C'est pour ça que les gens préfèrent T-Money, parce qu'au départ, c'était gratuit. Vous comprenez? Et Flouze Move, par exemple, lui prélevait des frais en vous pensant 50 ou 200 en fonction de la recherche que vous voulez faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est la Togocom aligne aussi le service sur ce que T-Money était en train de faire. Et donc, c'est à la CET de donner des explications. Et quand vous rappelez dans ce pays, par exemple, au niveau de la poste, on avait interdit de pouvoir prendre des 200 francs pour payer des factures d'électricité. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait eu une affaire où, pour payer une facture d'électricité, il faut payer 200 à la poste, à part la facture. Vous vous rappelez de cette affaire? Cette affaire a repris. Quand vous allez maintenant à la poste, on vous paye 200 plus votre facture d'électricité. Et la CET n'en dit absolument rien.
Ouais, parce
et donc
que
ça, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre.
La CET en situation de monopole, communiquer ou ne pas communiquer, elle ne peut pas se passer d'elle. Voilà. C'est pourquoi l'économie doit plutôt trouver une certaine vitalité dans la concurrence. Comme ça, si on n'est pas content ici, on peut aller là. Des fois, on est tenté de croire que nos parents avaient raison quand ils avaient deux femmes.
Non, pas ça.
Ça, c'est un débat.
Terminons avec l'économie.
Ça, c'est un pavé dans la barre.
Terminons avec cette opportunité qui sort pour le Togo, notamment le gisement de manganèse de Nayega, c'est au grand nord du Togo. Ouara nous rappelle que le Togo vient de conclure un partenariat stratégique pour l'exploitation et la mise en valeur, et avec également ce vœu du genre le tonnerre qui dit que dans la mise en valeur du manganèse de Nayega, il faut tout faire pour éviter ce qui est convenu d'appeler la malédiction des zones minières. Michel Tadia, exploiter le manganèse de Nayega, mais que ce ne soit pas la malédiction des zones minières qui atteignent également ce point.
Ah oui, non, je pense que c'est réel. Hein, c'est une invite à ce que dans la gestion de ce gisement, que des choses soient beaucoup plus orthodoxes pour profiter aux Togolais que nous sommes, pour ne pas créer des problèmes environnementaux et autres. Je pense que c'est normal. Et je pense qu'ils ne vont pas... ne pas écouter cela. Mais maintenant, je voulais parler un peu du paiement
des frais.
Vous savez, moi, parfois, je me pose des questions. Hein, quand je suis seul, je me dis, mais ça dit que il faut qu'on parte, qu'on se rappelle du moment où on nous demandait de payer. Avant, on allait payer nos factures. D'abord, on le paie. Hein. On va
dans les agences
officielles de la CET.
C'est pour nous faciliter, pour faciliter la tâche donc aux populations qu'on a demandé que nous payons par transfert. C'était une bonne chose. Bon, j'ai l'impression à un moment donné, on ne veut pas nous voir nous réjouir, on ne veut pas nous épanouir. C'est l'idée que j'ai parfois. C'est-à-dire, quelque part, on réfléchit, on voit là où on voit les Togolais qui s'en sortent un peu, on dit barrez-les ici. C'est l'impression qu'on a. Quelque part, c'est quoi cette histoire? Vous voyez? C'est-à-dire que vous marchez sur la route, vous roulez, vous payez, vous passez par ici, vous payez. C'est-à-dire, on nous barricade partout. On a l'impression. C'est-à-dire, on est heureux d'être Togolais. Pourquoi? C'est quelque part, c'est pourquoi vous êtes heureux. C'est comme quelque part, c'est la question. Certains se posent quelque part. Pourquoi nous sommes heureux? Alors que l'objectif, c'est de rendre
c'est
heureux.
De nous rendre heureux.
Hein? Vous voyez, et quand Covid est arrivé, et ça a donné raison à ceux qui avaient initié, donc, ceux qui avaient pris cette décision de payer par transfert. Quand Covid est arrivé, ça nous évitait les queues dans les. Dans les agences et tout. Mais maintenant bon, quand ils ont vu que à l'époque les gens se ruaient vers ce paiement, maintenant il faut nous bloquer par là et on dit qu'on augmente. Moi je dis tout ça là, c'est à la société de réagir. C'est à la société de réagir. Sinon Togo, comme est dans son droit, lui, il fait le business, il fait les affaires. Mais ça, la société dit non, vous ne devez pas prélever à la population parce que nous voulons que les populations passent par là.
Merci. Il est 12h, pas de 3 minutes, nous marquons une pause. Le temps que nous saluons les audios, disons les partenaires. Et puis nous nous connectons sur vous. Les deux numéros, c'est le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Les trois confrères et l'homme, Michel et Magloire, sont là, tout comme nos deux invités de l'UFC, M. Koudama, M. Ajavan, également, qui sont en nous.
93.5. Canal FM.
Eh bien, nous avons parlé de beaucoup de sujets. Les vieux constatés d'à côté, les congrès des partis avec des fortunes diverses, et puis le monde des affaires, des opportunités économiques. À présent, la parole est à vous. Un auditeur déjà en ligne, bonjour, oui.
Allô, vous m'écoutez?
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Il semble que vous avez parlé de Soudicom et ces affaires-là. Ils ont mis la couverture sur réseau inaccessible. Alors, mon intervention, c'est le pôle de Nukamu.
Nous vous recevons mal, hein, cher ami. Nous n'arrivons pas à distinguer nettement vos propos. Allô?
Allô?
Oui.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Bonjour.
Oui, je voudrais poser une question aux invités là.
Oui.
L'UFC. Qu'est-ce que les tests disent? Ces deux messieurs là, on ne peut pas les sanctionner, les renvoyer, aller créer leur propre parti.
Bon, qu'est-ce que les textes disent pour le fonctionnement du parti?
Voilà.
Ok, je vais...
Allô?
Oui.
Allô?
Oui. Allô?
Oui. Pour ce qui concerne des milliardaires, là, ça se vous dit qu'on a des milliardaires au Togo.
Laissons les milliardaires, parlons plutôt que les affaires puissent se faire et que les gens puissent émerger. D'accord?
Nos milliardaires, ils ont peur.
Sylvain, est-ce que toi tu connais un milliardaire ici au Togo? Sylvain?
Allô?
Sylvain?
Allô?
Pourquoi cette communication là? C'est parce qu'on a parlé de Togo ou bien quoi? Ok. Allô?
Salut Sas, comment tu vas?
Je vais bien, c'est monsieur?
C'est Karim le taximan.
Karim le taximan, oui.
Et comment allez-vous? Je salue tout le plateau.
Ça va, oui, allez-y.
Et je donne un bon carton vers l'autre là, comment on l'appelle? Celui qui vient d'expliquer que dès que les Togolais vont trouver un peu de pain quotidien, nous bloquent sur la route.
Oui.
Ça, vous savez, je voulais parler de clinique Dr. Lafia ou bien. J'ai peu le journal aujourd'hui.
Oui.
Et j'ai lu des trucs qui étaient dedans. C'était pas du tout bon. Consultation à 8 000 francs dans ce pays.
Et le SMIC, c'est qu'en 2000. Si ta femme est enceinte, si tu oses à l'amener là-bas, 40 000 l'accouchement. Mais on va où? On va où? Le président voulait nous aider, mais les prix étaient trop.
Oui, Karim, pour ce que je sais, Dr. Lafia, ce n'est pas un dispensaire. Ce n'est pas une unité de soins de proximité. C'est un hôpital de référence. On ne devrait se rendre là que pour des maladies chroniques ou bien si on est vraiment riche. Karim, vous et moi, nous avons plutôt des hôpitaux beaucoup plus à notre portée.
Ok, merci Karim.
Je vous en prie. Oui, l'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est M. Anani de Noukafou.
Ok, allez-y, M. Anani.
Bien, j'aimerais demander au leader de l'UFC de laisser tout ce qu'on appelle test à part et voir de face à face ce qu'il faut faire. Parce que il faut être panafricaniste comme Magloire, qui vous a tout démontré là-bas. Le journaliste est un panafricaniste. Ce n'est pas un petit panafricaniste qui est Magloire là-bas. Donc, ils n'ont qu'à s'asseoir, comme on le dit, le linge sale se lave en famille pour régler ça. Ça, c'est mon premier point. Concernant les hôpitaux, moi, je dirais qu'il faudrait revoir le système panafricain comme système politique en Afrique pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. Parce que nous sommes toujours dans l'impérialisme. C'est l'impérialisme. Il n'y a pas de colonisation, d'indépendance, tout ça là. Merci. Je pense que si les frères m'ont compris, ils sont des Togolais, ils sont Africains, ils n'ont qu'à s'entendre et le reste viendra après.
Merci, monsieur Lani. Juste vous rappeler que le panafricanisme, jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup plus un discours que des faits réels et tangibles. L'auditeur suivant.
Oui, ah, bonjour.
Bonjour. Oui.
La maladie ne choisit pas le pauvre ou le riche. Je pense que l'auditeur.
Mais je ne sais pas, depuis ce matin, là, les communications ne sont pas bonnes. Je ne sais pas, c'est à quel niveau. J'écoute mal ce que Johannes nous dit là.
Allô?
Oui.
Oui, je dis, la maladie ne choisit pas le riche ou le pauvre. La maladie ne choisit pas le riche ou le pauvre. Je pense que l'auditeur qui a précédé, celui qui vient de raccrocher, il a fait le même constat que moi. Parce que il n'y a pas que les pauvres. Ouais, c'est vrai que le docteur Lafia est un hôpital de référence. Mais la question est de savoir, les hôpitaux dont vous parlez, qui sont vous qualifiés d'être à notre disponibilité, est-ce que dans ces hôpitaux-là, on soigne les maladies les plus chroniques dans ce pays? C'est ça le problème. Quelqu'un qui a une maladie qui ne peut que se faire soigner dans son hôpital de référence, qui n'a pas le droit d'être pauvre. Et si les pauvres n'ont pas le droit de se faire soigner là-bas, c'est ça le souci. Parce que les maladies les plus...
Merci. Les plus donc, dures. Vivement que les tarifs, les prestations de Dr. Lafia soient à la portée de tous les Togolais, des plus riches, des plus pauvres.
Oui,
c'est bien noté, l'ami Johannes. Merci beaucoup. Nous passons au suivant. Bonjour.
Bonjour, M. Sass.
Oui.
Papa Sordinet.
Oui, depuis Amoutievé.
Depuis Amoutievé, voilà. La question que j'aimerais poser aux invités de l'UFC, là, d'après tout, où est le président national? Celui qu'alors, quand il veut retourner au pays, tout le monde se montre de quoi là? Je sais comment décrire ça, depuis la frontière du Ghana jusqu'à son résidence.
Oui.
Et voilà aujourd'hui que son parti se fait ridiculiser.
Merci
mais que
beaucoup.
C'est le midi.
Merci.
Il n'a qu'à venir nous parler.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Je vous en prie, Papa Sordiné. Un autre auditeur.
Allô.
Allô, c'est ici ça. Oui.
On vient encore là. Je voudrais demander si c'est une retransmission d'hier. Parce que vous ramenez la même chose, quoi.
Alors, non? Et si, alors vous-même, quand vous nous écoutez en direct
vous
aujourd'hui...
Vous êtes en pleine émission.
Oui.
Non, mais vous êtes Damien qui dit quoi.
Ah, ok.
Vous voyez comment la non-alternance fait perdre du temps à une république. C'est-à-dire, on revient sur la même chose et puis on perd du temps au pays, quoi. Hein, c'est pour ça qu'il faut alterner. en temps réel. Et puis, Dangote est un industriel, tout comme Trump, et qui n'ont rien à foutre. Ils ont eu leurs milliards à la sueur de leur front, je le dis, hein, par rapport à nos politiques d'Afrique, qui sont plus riches que les États. Voilà. Ils ne sont pas des industriels, ni les fils d'industriels, mais ils sont plus riches que nos États. Voilà. Et puis, pour l'histoire des partis politiques qui s'entretiennent, ce n'est pas notre problème. Et là, c'est le régime qui refuse d'alterner, qui s'immisce dans ces trucs-là, mm-hmm. pour essayer de les détruire et rester là. C'est pas sorcier, quoi. Qu'on passe outre tout ça, là, et puis, qui se ressaisisse, c'est tout, hein. Et puis, vous avez parlé de l'histoire des routes détruites chez un député Yentsouni. Il est député depuis combien d'années? 40 ans?
Non, nous avons juste situé le poteau par rapport à sa
il
maison.
Est comme, député, non?
Comme c'est une personnalité publique, c'est pour permettre à l'opinion de savoir à peu près là où le poteau est tombé.
Ça ne peut pas évoluer un pays. Les mêmes qui sont là, 60 ans, hein, c'est pas bon, quoi.
Merci.
Federer a raccroché. Il avait 41 ans. Même chez Dieu, on alterne. On alterne.
Merci.
Et je peux dire un truc. Pour cette histoire d'inondation, et ça, je vais te dire que je suis tombée dans un caniveau au niveau de Minamadou.
Mm-hmm.
Alors que j'appelle la radio Métropolis tous les matins pour demander, avant la pluie, hein, pour demander qu'on envoie des caterpillars sur ces grandes routes-là qui desservissent Minamadou.
Oui.
Rien n'y a fait. Et je suis tombé dans un caniveau non couvert. J'ai fait un coup de lapin. Je suis avec un Minerve, là, une Minerve, si on peut le dire. Et puis ma voiture a coulé.
Oh là
est cassée.
Là. Ah
je
ne
sais
là.
Pas là où je dois porter plainte, mais je ne sais pas si c'est avec la ministre des TP ou c'est l'État en général. Il faut qu'on me dédommage, qu'on me soigne, qu'on m'achète une nouvelle voiture. Merci.
Je vous en prie. C'est vrai que hein, quand vous avez quelque part, il y a de l'eau, mais il y a du trou en dessous. Vous tombez dedans et puis le drame est arrivé. Oui, dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Oui, c'est Natema. Hein.
Monsieur Natema.
Oui.
Oui.
Je vais parler de la CT.
Oui.
Je ne sais pas, ce ministère-là, dans le gouvernement-là, il y a certains ministères même, on peut les supprimer parce que vous allez au Ghana, là, quand vous commencez votre fondation, on vous amène le courant pour vous déposer. Mais ici, la société attend seulement que la population aille vers eux. Est-ce que c'est normal? Les gens, ça fait, vous prenez Dapon, vous prenez Kara, vous prenez Central, vous prenez Plateau, vous prenez même Maritime, Lomé, même la capitale. C'est les araignées. C'est les, ça, je vous assure.
Oui.
Actuellement, même comme il pleut comme ça, tel que vous avez dit, les petits poteaux que les gens ont fait pour conduire le courant jusqu'à chez eux. Tout est tombé par terre.
Oui.
Et
oui.
Il y en a même. Les
avec
gens vont
tous les risques.
Et
avec tous les
là,
risques.
Les gens, la CT, on met un poteau et on prend le compteur, on colle au poteau et c'est fini. Là, ça, ça, là, même là, ça, le ministre, là, ça le plaît comme ça.
Non, sauf que la CT, ce n'est pas un ministère.
Le ministère peut faire un prêt de 5 milliards ou bien de 10 milliards. Tout le monde a besoin du courant. Ou bien. Et celui-ci, on paye son 15 000 pour le branchement. Tout de suite, l'argent, là, ça ne va pas rentrer.
Mm-hmm.
On ne va pas absorber ça pour refaire encore un prêt, pour faire l'extension quelque part. Mais pourquoi on ne peut pas copier ailleurs? Et les gens, tout le monde est obligé de rester à Lomé. Alors, regardez, quand vous allez vers Mouchitombe, les gens ont construit, mais il n'y a pas le courant. Jusqu'à Lomé, les gens ont construit, il n'y a pas le courant. Mais pourquoi ce ministère? Vaut mieux qu'on le supprime. C'est mieux, bonne émission.
Le ministère de l'énergie hein, appréciera ce que l'ami Natema vient de dire. Mais c'est vrai qu'ailleurs, hein, le terrain viabilisé avant que les gens construisent. Alors que chez nous ici, c'est nous-mêmes qui faisons l'extension de la ville. Et après, on demande à la CET, on demande à la TDE de nous apporter qui l'eau, qui le courant électrique. C'est une difficulté. Merci, chers amis auditeurs. Mais les amis de l'UFC, il y a deux questions qui vous sont adressées. Alors, que disent les textes de votre parti quant à son fonctionnement normal? Ça, c'est d'un de deux. Dans tout cela, où est le président, M. Olympio? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? M. Koudama, secrétaire général par intérim.
Je vous réponds à la première question et je laisse la seconde question
mm-hmm.
à M. Ajavon qui l'a vu même il n'y a pas longtemps, mm-hmm. Même après le truc-là, il l'a vu. Donc, je réponds à la première question. Que disent nos textes? Nos textes sont clairs. Quand le président n'est pas sur le territoire, il est remplacé par le premier vice-président et ainsi de suite par ordre de préséance. Ce qui veut dire, le premier vice-président étant M. Diabaté, qui est mort, vous le connaissez, je crois, mm-hmm. Brim Diabaté, il est mort. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième vice-président qui est à la tête et qui doit diriger le parti en l'absence du président national. Ce qu'il fait. Mais il y a un groupe, c'est pourquoi j'ai parlé de rébellion, qui se lève pour dire qu'eux, ils ne veulent pas de lui. Et ils sont soutenus par le pouvoir en place.
Monsieur Ohin, est-ce qu'il tient encore des réunions du bureau de l'UFC?
Tous les mercredis même. Bon, hier, oui, mais hier, il était là. Même hier.
Donc, par les textes, c'est Monsieur Ohin qui est habilité à diriger le parti en l'absence du président national. Il le fait. Il tient les réunions de bureau régulièrement. Mais il y a ce groupe-là que vous appelez des rebelles qui ne veulent pas se reconnaître dans M. Ohin et qui s'appuient sur d'autres personnes pour mener les actions. Voilà. Alors, dans ce jeu, M. Ajavon, vous qui semblez bien connaître M. Olympio, où est-ce qu'il se trouve actuellement et qu'est-ce qu'il dit dans ce tumulte?
Actuellement, M. Olympio, il est, disons, au repos. Il est à Accra. Il est à Accra actuellement. Il se repose. Il est sorti vraiment d'une longue maladie. Vous savez que il y a eu l'attentat de Soudou qui l'a vraiment diminué. Il se sent pas très bien. Il a quand même 87 ans. Bientôt, il aura 87 ans. Donc, c'est pas petit. Il se repose. Il essaye de... Il va essayer de revenir.
Mais il est à Accra ici. C'est à Accra que vous allez. Hein. Tous les camps vont le voir régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'il dit quand les uns les autres vont le voir? Qu'est-ce qu'il dit dans cette affaire?
Il dit, pour lui, le problème unitaire est très important. Il ne veut pas de groupe, de groupuscule ou soit de division du parti. Donc, il dit qu'on doit être tous ensemble. Et à cet effet, c'est pour ça qu'il a dit que les deux leaders, le leader qui est normalement Ohin qui doit le remplacer, donc, dit qu'il faut que tu rassembles tout le monde. Donc, va voir Monsieur Maître Omao et travailler ensemble. Rappelle-le pour que vous puissiez aller au congrès unitaire. Et c'est à cet effet, si vous voyez la convocation du congrès, il y a marqué en article 3, la présente décision sera exécutée par Monsieur Elliot Ohin, deuxième vice-président, et Maître Jean-Claude Omao, conseiller spécial. Le deuxième vice-président est chargé de présider le congrès extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a été clair. Il sait qui, normalement, le suit. Mais, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de dispute entre nous. Il ne veut pas qu'il y ait... Il veut le compromis. Il veut qu'on s'entende et qu'on aille à ce congrès.
Donc, en clair, hein, les textes du parti sont clairs. En l'absence du président... C'est le premier vice-président et après le deuxième vice-président qui préside le parti. Et puis deux, M. Olympio est là, il écoute tout le monde, mais il demande aux gens de travailler ensemble.
Non, il écoute tout le monde et il a pris position. Il a pris position pour les rebelles. Parce que c'est ça qu'il faut dire aux Togolais, à ceux qui nous écoutent de par le monde, parce que c'est cette liste-là qui est passée à la CENI. C'est clair, les enfants de CM2 là comprennent ce que nous disons. Donc ce n'est pas un problème. Donc c'est lui, c'est, ça veut dire aujourd'hui, il a pris position.
Là c'est la conclusion de monsieur. Ouais, Michel.
La pris position.
Voilà. Merci. Alors, tu as la parole, tu la gardes pour ta conclusion.
Non, ma conclusion. C'est que je regrette qu'on n'a pas pu parler des 60 ans de la création de l'OIA, parce que ça me tenait à cœur.
Oui.
Parce que ceux qui ont créé l'OIA actuellement, je suis sûr qu'ils sont en train de se retourner dans leur tombe. Parce que par rapport à ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est vraiment dommage, parce que l'Afrique, là où nous sommes aujourd'hui, l'Afrique se cherche.
Oui.
L'Afrique se cherche. Et pas plus que pas plus qu'avant-hier, je pense que c'est madame la Première ministre qui a ouvert
le lancement des travaux du 9e congrès panafricain,
voilà,
que le Togo devra abriter en octobre 2024.
In fine, ce qui est recherché, c'est de trouver les vases de moyens pour préparer des réformes audacieuses des institutions, des institutions, disons, régionales et tout, parce que il y a beaucoup de problèmes qui se posent à l'Afrique et au sous-ensemble, et il faut vraiment revoir les tests.
Relancer le Panafricain. Merci Michel. Juste rappeler que le Togo, officiellement, n'est pas membre fondateur de l'OUA en 1963, parce que l'OUA avait été créée donc le 25 mai. Or, le Togo venait de connaître un coup d'État le 13 janvier 1963, et la délégation du Togo, qui était conduite par l'ancien ministre Ayin Ouledé, arrivée à Addis Ababa, n'avait pas été admise dans la salle de l'histoire. C'est l'histoire. Magloire Teko Kenvi.
Non, je crois que Michel a déjà dit ce que je pensais en ce qui concerne le sujet lié à l'UFC. Mais je dirais tout simplement qu'il était quand même grand temps que cette grande personnalité que nous connaissons, M. Ohin, Maître Homao, puissent enterrer leur âge de guerre. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font, ils humilient sans le savoir le président national. Parce que tout le monde, le regard se tourne vers lui. On pense que c'est lui qui n'arrive pas à prendre des décisions idoines. Mais je me dis, mais vu l'âge de M. Ohin, vu l'âge de Maître Homao, il pouvait quand même s'entendre pour éviter l'appréhension que les gens peuvent avoir sur le président national de l'UFC. Maintenant, pour le reste, je dirais, on parlait tantôt du docteur Tchoudier qui va représenter non seulement le Togo, mais toute l'Afrique, parce qu'il est le seul Africain en lice. Il faut le faire. Plus de 70 ans déjà, aucun Africain n'a réussi à avoir un poste électif au niveau de l'OMD. Donc, je vous rejoins en exhortant les Togolais à prier avec lui pour que la victoire puisse revenir non seulement au Togo, mais à l'Afrique. Maintenant, mon carton rouge.
Oui.
Non, mon carton, il est rouge.
Non, oui.
Il est rouge,
oui.
Et je l'adresse à Macky Sall. Parce que le monsieur, il fait fort. Non, sérieux, il fait fort.
Merci.
Vous vous rappelez qu'en 2017.
Carton rouge, oui, Macky Sall.
Mais il le fait fort. De mettre toujours les gens en prison pour pouvoir aller de l'avant, mais il fait fort. Carton rouge à lui.
Merci. Et l'homme
Moi, je vais peut-être donner une information qui va réveiller beaucoup. On continue de faire le test de dépistage Covid à l'aéroport international de Lomé. Si vous n'êtes pas en possession à votre retour d'un pass vaccinal, on vous fait un test de dépistage COVID-19. Vous vous rappelez de ce fameux rapport de la Cour des comptes, et vous vous rappelez que récemment l'OMS a levé l'état d'urgence sanitaire mondial en ce qui concerne la COVID-19. Et vous savez aussi qu'actuellement, quand vous voyagez dans certains pays ou dans plusieurs pays, les gens ne demandent plus cette affaire de COVID. C'est quand même étonnant qu'au Togo, quand les voyageurs atterrissent, on leur demande non seulement un passe vaccinal, mais si vous ne l'avez pas, on vous fait un test de dépistage COVID-19. Bon, je lance le débat. Les oreilles qui nous écoutent ont entendu aussi. Merci.
Mais je t'en prie. Il y a même un journal qui a parlé de ce sujet, hein, disant que l'OMS ayant dit que la COVID n'est plus une pandémie comme ça. Pourquoi le Togo n'arrive pas à arrêter l'état d'urgence sanitaire? Malheureusement, je ne retrouve pas le journal. Ce sera pour prochainement. En tout cas, merci pour cette émission que je suis heureux d'avoir animée avec vous, vous les confrères, et vous également de l'UFC à l'UFC. Bonne chance et que le bon sens vraiment prévale dans vos rangs. Et puis demain, le club de la presse qui va redevenir Radio de Littoral avec nos partenaires, nous serons dans un petit village tout beau de la préfecture de Vaud. Si vous êtes à l'écoute demain à 11h, vous serez où nous serons et vous avec nous.